Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'entamer une nouvelle série d'émissions sur l'antenne de Radio La Pourdie, puisque nous aurons la joie d'accueillir chaque mois notre évêque qui nous parlera de l'actualité de l'Église et du diocèse. Nous accueillons également le nouveau délégué épiscopal à l'information et à la communication, Olivier Drapé, qui mènera avec moi donc cet entretien. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Monseigneur Haillé, vous êtes à Ustaritz aujourd'hui.
Bonjour.
Cette nouvelle émission démarre en pleine semaine missionnaire mondiale. C'est une semaine importante pour la vie de l'Église.
Oui, c'est une semaine très importante, et d'autant plus que, comme vous le savez, il y a quelques jours, le Saint-Père a introduit solennellement le fameux synode spécial pour l'Afrique. Et cela nous rappelle effectivement à la sollicitude pour toutes les Églises qui doit nous habiter, et en particulier dont nous reprenons conscience chaque année au cours de cette semaine mondiale des missions. J'en profite d'ailleurs pour dire comment le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, qui a une grande histoire et tradition missionnaire, n'est-ce pas, vient d'envoyer un prêtre Fidei Donum au Tchad, en la personne de l'abbé Rémi Galvan, qui représente un peu cette sollicitude de notre Église diocésaine pour la mission universelle.
Alors, Monseigneur Haillé, vous avez souhaité intervenir chaque mois sur notre antenne pour parler de l'Église, pour parler du diocèse, pour parler de vos préoccupations et aussi des orientations pastorales que vous souhaitez donner à l'Église diocésaine. Alors, dans cette émission aujourd'hui, nous allons revenir sur deux ou trois événements majeurs de cet été. Vous allez bien sûr aussi aborder l'encyclique, la dernière encyclique du pape Benoît XVI. Et puis, nous parlerons bien sûr de l'année sacerdotale qui s'est ouverte au mois de juin dernier. Olivier Drapé.
Oui, Monseigneur, vous avez participé à la fin du mois de juillet, aux côtés d'un certain nombre d'évêques de l'Épiscopat français, vos confrères, au pèlerinage étudiant en Terre Sainte, et plus récemment, à Lourdes, vous étiez bien entendu présent pour le pèlerinage diocésain du 20 septembre qui correspondait au pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise au service des malades. Alors, avec un peu de recul maintenant, que retenez-vous de ces deux temps forts de la vie diocésaine, qu'ont été ces deux pèlerinages?
Deux événements en effet très, très différents, mais qui se rejoignent en effet, car ce sont des temps forts qui mobilisent notre diocèse, en particulier le pèlerinage en Terre Sainte d'abord, qui était un peu inédit puisque c'était une grande première organisée au niveau de la France entière pour les aumôneries étudiantes. Et là, je dois noter quand même la capacité de mobilisation de la pastorale des jeunes dans notre diocèse de Bayonne, puisque très tôt, et je crois que c'était l'un des premiers diocèses, l'abbé Jean-Paul Martinon, qui était à l'initiative de ce rassemblement diocésain, avec l'aide de l'abbé Benoît Nouvelle, avait rempli leur quart. Nous étions 52 à arpenter les chemins et les routes de Terre Sainte, évidemment à la rencontre du Christ, aux sources mêmes de notre foi, sur ces lieux qui ne peuvent pas laisser indifférents et qui n'ont pas en effet laissé indifférents ces jeunes. À la fois rencontre qui était très diocésaine, puisque ce pèlerinage se passait en diocèse, mais avec aussi quatre grands rendez-vous nationaux avec les autres diocèses, très riches d'un point de vue à la fois spirituel, liturgique et aussi, je crois, ecclésial, en particulier à la découverte de ces églises qui maintiennent la présence précisément chrétienne dans cette Terre Sainte, dans ce Moyen-Orient d'une manière générale, qui est ensanglanté par tant de divisions et tant de violences. Et je retiens en particulier, évidemment, la première grande rencontre sur le bord du lac de Tibériade, avec une catéchèse extrêmement percutante du cardinal Barbarin, sur fond de coucher de soleil sur le mont des Béatitudes, avec une 2000 jeunes qui écoutaient cette parole d'évangile, précisément sur les béatitudes évangéliques de Jésus. et aussi ces deux rencontres pour mieux saisir la complexité de la situation de la Terre Sainte, en particulier entre les Juifs, les musulmans, les chrétiens, deux colloques qui ont eu lieu, l'un à l'université de Bethléem, après avoir passé le mur, qui évidemment a beaucoup impressionné les jeunes, d'entrer ainsi dans une sorte de territoire qui devenait comme une sorte de prison à ciel ouvert. Et puis un autre colloque, cette fois à la Maison des Nations de Jérusalem, en présence d'universitaires juifs et d'un prêtre en particulier, issu du judaïsme, converti au catholicisme, vicaire du patriarche latin pour les catholiques hébréophones, et qui est comme une sorte de passerelle entre le monde des Arabes chrétiens, et aussi finalement des musulmans, et des juifs et des chrétiens. Et puis il y a eu le beau pèlerinage aussi, à Lourdes, qui était pour moi le premier, sachant que l'hospitalité basco-béarnaise est une véritable institution dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, qui rassemble, je crois, près de 2500 bénévoles hospitaliers au service des malades. 1200 étaient sur le pont à l'occasion de ce pèlerinage à Lourdes, dont 200 jeunes de lancement catholique généralement, ce qui est une chose assez extraordinaire de voir ces jeunes se mettre au service des malades et faire une expérience à la fois de don d'eux-mêmes et une expérience spirituelle de rencontre avec le Seigneur à travers la simplicité et la ferveur du phénomène de Lourdes et en même temps une expérience ecclésiale. C'était beau en effet de voir cette église avec tous ses visages, tous ses âges qui se rassemblaient là, en particulier dans des très belle célébration et je pense très spécialement à la messe internationale où chaque année, à l'occasion de ce pèlerinage, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron y occupe une place prépondérante.
Je crois que parmi les 200 jeunes dont vous parliez, un certain nombre sont même issus de l'enseignement public et des aumôneries de l'enseignement public, ce qui est intéressant d'ailleurs.
Alors c'est aussi un peu nouveau. Au départ, c'est lancement catholique, parce que c'est plus facile en effet de débloquer quelques jours, d'autant plus qu'il s'agit d'élèves de terminale. Mais maintenant, un certain nombre de jeunes de l'enseignement public ont pu eux aussi participer à ce bel événement.
Monseigneur Raillé, il paraît que le diocèse de Bayonne s'est fait remarquer en Terre Sainte à... par son identité spécifique.
Oui, alors c'est vrai que j'étais assez interpellé par ce fait que la capacité de mobilisation de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron n'atteint pas seulement les centres urbains, mais aussi les villages du Pays Basque intérieur. Et j'étais fort agréablement surpris de voir participer à ce pèlerinage étudiant près d'une quinzaine de jeunes étudiants issus des villages du Pays Basque intérieur et très identifiés, très fiers de leur culture et que tous d'ailleurs se sont facilement appropriés dans ce contexte un peu national et donc j'allais dire quasiment multiculturel et tout le monde chantait facilement les chants basques qui sont assez propres au Pays Basque, mais tout le monde s'appropriait avec une certaine fierté et j'étais moi-même assez fier de pouvoir chanter ces chants pour marquer aussi l'identité de ce diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron au milieu de ce grand panel des diocèses français.
Alors, Monseigneur Ayer, vous avez fait des progrès en basque en Terre Sainte.
Alors, je pense que je fais des progrès en basque, surtout dans le Pays basque. En Terre Sainte, je me suis aussi laissé emporter par les chants, moi aussi.
Monseigneur Ayer, nous marquons une première pause dans cette émission en écoutant justement un chant basque, le chant du Notre Père, le Gouléaïta, lors de la messe du rassemblement des chorales à Saint-Palais, en avril dernier, et les auditeurs reconnaîtront certainement la voix de celui qui introduit au chant de cette prière.
Shalbatsai leak badatu, etaira kuchi yari yaraikis, berdurga beeran desagu. Oh,
rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Un autre événement très important qui a eu lieu juste au début de l'été, c'était la publication donc de la dernière encyclique du pape Benoît XVI, Olivier Drappé.
Oui, et très récemment, il y a quelques jours, près de 200 personnes ont assisté, Monseigneur, c'était le 3 octobre, à l'abbaye de Belloc, à une conférence que vous donniez précisément sur Caritas in Veritate, la dernière encyclique du pape Benoît XVI. Pourriez-vous éventuellement nous rappeler d'abord ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église, et puis nous spécifier quelles réflexions vous inspire cette encyclique du pape Benoît XVI ?
Alors, la doctrine sociale de l'Église, comme chacun sait, c'est un corpus d'enseignement qui donne un certain nombre de principes fondamentaux qui président à la vie sociale, de critères de discernement sur les questions de société, de principes d'action aussi pour construire un ordre social plus juste et plus fraternel à la lumière de la raison et de la révélation et en vue d'une plus grande justice, donc, qui est le maître mot de cette origine sociale de l'Église et aussi en vue de réaliser le bien commun, sachant que le bien commun se définirait comme l'ensemble des conditions économiques, sociales, politiques, culturelles et même spirituelles qui permettent à tout individu, toute personne dans la société, eh bien d'accomplir sa finalité dernière, qui est transcendante en effet pour nous chrétiens, et donc qui promeuvent d'une certaine manière le développement humain intégral, qui d'ailleurs est le thème particulier de l'encyclique Caritas in Veritate, la première de Benoît XVI depuis 4 ans de pontificat, et qui voulait se situer dans la lignée de toutes ces grandes encycliques qui jalonnent, en effet, l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, qui a commencé, comme on le sait, avec la grande encyclique de Léon XIII en 1891, en plein essor de la révolution industrielle, Rerum Novarum. Et on voit d'ailleurs que l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, depuis un peu plus de 100 ans, est jalonnée par un certain nombre d'encycliques sociales des papes qui, généralement, célèbrent un anniversaire de cette encyclique fondatrice, Rerum Novarum, sur la question ouvrière, sur la justice sociale d'une certaine manière. Quadragesimo anno a une charnière aussi de l'histoire contemporaine, puisqu'il s'agit du grand krach financier de 1929, l'encyclique Quadragesimo anno, comme son nom l'indique, pour le 40e anniversaire de Rerum Novarum en 1931, dans lequel on insiste sur la restauration de l'ordre social et avec un point particulièrement souligné sur le principe de subsidiarité. Et puis ensuite, nous avons Populorum Progressio, qui est une encyclique sociale qui date de 1967. C'est Paul VI qui l'écrit au moment de la décolonisation et de toutes les questions du tiers-monde qui se font jour dans le monde. Et finalement, Censesimus Annus, pour le 100e anniversaire de Rerum Novarum, en 1991, qui célèbre d'une certaine manière l'effondrement du communisme et qui apporte nécessairement des modifications substantielles à la face du monde. Et enfin, donc, 2009, pour le 42e anniversaire, parce qu'il était annoncé, en fait, pour le 40e anniversaire de Populorum Progressio, Caritas in Veritate, qui se situe effectivement dans la ligne de l'encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples et en particulier sur le développement humain intégral qui veut souligner l'intégralité de la personne humaine qui doit être au centre et au sommet de l'économie et en particulier de la société.
Cette encyclique de Benoît XVI, que trop peu de catholiques certainement ont pu lire, hein, y compris dans notre diocèse, n'est-elle pas, selon vous, un peu théorique, un peu abstraite ?
Alors elle paraît en effet théorique parce que elle propose une réflexion assez élevée sur les questions qui se posent aujourd'hui. Il faut voir que si Censesimus Annus a été écrit en 1991 après l'effondrement du communisme, et rappelant la légitimité de la libre initiative, mais aussi la relation à Dieu qui commande aussi la vie sociale, en particulier le droit à la liberté religieuse qui est le socle de tout l'édifice des droits de l'homme, comme le disait à cette époque Jean-Paul II. L'encyclique Caritas in Veritate arrive à l'occasion d'une grande crise financière et économique mondiale qui peut-être est la conséquence de ce supercapitalisme qui est devenu le modèle, j'allais dire, universel de l'économie dans le monde depuis l'effondrement du communisme et qui n'est pas sans effet destructeur pour les vies sociales. Je pense en particulier à la fracture encore toujours plus grande entre les pays pauvres et les pays riches. Si l'on connaît une augmentation de la richesse globale de l'humanité à notre époque, on connaît aussi une moins bonne répartition encore de ces richesses, alors qu'au nom du principe de la destination universelle des biens de la création, tous doivent pouvoir à égalité jouir des biens de la terre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous connaissons une inégalité encore plus criante et plus scandaleuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et je dirais que à l'occasion de cette crise mondiale économique qui manifeste, j'allais dire, l'échec de cette économie de marché lorsqu'elle est complètement débridée et lorsqu'elle ressemble à ce supercapitalisme qui est la recherche du profit maximum, qui est d'une certaine manière la subordination du travailleur au capital et finalement au profit, eh bien le pape Benoît XVI en profite pour nous inviter, en faisant cette analyse et cette critique de ce système économique universel, à une nouvelle réflexion anthropologique sur la société et nous invite en effet à réfléchir sur le sens ultime de l'économie, sur la finalité du capitalisme, en affirmant que sans doute il faut que le monde d'aujourd'hui se donne des règles pour encadrer cette libre économie de marché et puisse ainsi servir la personne intégrale, la personne dans son intégralité, donc faite de corps et d'esprit, qui doit être toujours le principe, le sommet de toute vie sociale et de tout système économique. Et invitant ainsi à une réflexion anthropologique qui rappelle que l'économie doit être subordonnée à la morale, qu'il ne s'agit pas seulement de saupoudrer le processus économique de quelques règles éthiques, comme on essaie de le faire quand même aujourd'hui, mais de rappeler que la morale est à la source même de tout le processus économique, depuis la production jusqu'à la redistribution, qui appelle des règles, qui appelle donc même aujourd'hui, en ces temps de mondialisation des phénomènes économiques, à une autorité de type international, à condition que ce ne soit pas évidemment un super État mondial et que le principe de subsidiarité soit pleinement honoré. En tout cas, appel à une nouvelle réflexion, appel à une conversion de mentalité et certainement appel à de nouveaux modes de vie, à de nouveaux styles de vie qui permettent en effet le plein épanouissement et le plein développement de tout l'homme et de tout homme.
Justement, dans l'actualité récente, il y a eu les producteurs de lait qui ont fait grève, les évêques de Bretagne ont réagi. Il y a eu également l'affaire des suicides à France Télécom.
Alors j'ai moi-même réagi la semaine dernière à cette grève du lait qui appelle en effet de véritables signaux d'alarme donnés aux autorités, n'est-ce pas ? Car là, on rejoint en effet, à travers le discours de cette encyclique, des réalités très concrètes, parce que ce sont des problèmes très concrets qui sont vécus par des personnes. Encore une fois, c'est l'attention à la personne du travailleur en particulier, qui est soulignée très spécialement par cette encyclique « Caritas in Veritate ».
Monseigneur Hayé, nous marquons une courte pause avant de vous retrouver avec ce chant. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, un texte de François d'Assise. Comme vous le savez, nous célébrons cette année le 8e centenaire de la fondation de l'ordre des Franciscains. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, un texte de Saint François d'Assise sur une musique de Michel Wackenheim, extrait du CD Saint François d'Assise, loué sois-tu, coédité par Priant en Église et l'Atelier du Frêne. Sont dans le bois. rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Fidélité du prêtre, fidélité du Christ, c'est ainsi que le pape Benoît XVI a proposé, autour de ce thème en tout cas, a proposé à toute l'Église de vivre une année sacerdotale, Olivier Drapé.
Oui, Monseigneur Haillé, pourriez-vous nous redire, nous rappeler quel est le sens profond de l'année sacerdotale qui s'est ouverte le 19 juin dernier à l'occasion des 150 ans de la mort du curé d'Ars? Et nous dire également comment cette année sacerdotale se traduira-t-elle concrètement pour les prêtres et les fidèles de notre diocèse.
Alors c'est sûr que même si cette année sacerdotale est très circonstanciée au 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars, qui a donné lieu d'ailleurs à une année jubilaire à Ars même, on voit bien que dans notre Église qui connaît une pénurie des vocations sacerdotales, en particulier en Occident, dans nos pays de vieille chrétienté, et en particulier notre diocèse, qui a été une terre profondément riche en vocations de toutes sortes, non seulement pour le diocèse, mais pour l'Église universelle à travers les missions, on voit bien que le souci du Saint-Père est certainement d'encourager les prêtres dans les circonstances actuelles où le ministère sacerdotal est souvent mené à mal. D'abord parce que les prêtres sont moins nombreux, que les prêtres vieillissent, qu'ils sont inquiets pour la relève, ce qui est bien légitime. Et c'est vraiment que le Saint-Père veut rappeler le caractère indispensable du ministère sacerdotal dans l'Église, dans l'intérêt même du laïcat, dans cette grande complémentarité rappelée par le Concile Vatican II dans le sens d'une ecclésiologie de communion entre le sacerdoce ministériel des prêtres, qui rendent présent le Christ à son Église, lui seul d'ailleurs pouvant conduire son Église et lui permettre d'accomplir sa mission, et le sacerdoce commun des fidèles, auquel les fidèles participent précisément par la grâce de leur baptême et de leur confirmation, qui doivent être engagés pleinement dans la mission de l'Église. Mais en termes de complémentarité, d'ordination de l'un à l'autre, qui nécessite certainement que chacun soit vraiment identifié dans sa grâce propre, et dans sa mission. Et c'est vrai que notre époque appelle en effet à représenter cette identité sacerdotale, cette figure du prêtre, à l'occasion de son 50e anniversaire, qui effectivement souligne une figure exemplaire de prêtre, j'allais dire de base, en la personne du Saint Curé d'Ars, et nous avons nous ici aussi dans notre diocèse d'autres figures sacerdotales exemplaires avec Saint-Michel Garicoïtz qui a fondé les prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram, mais aussi le vénérable abbé Louis-Édouard Sestac, prêtre de Bayonne qui a fondé la congrégation des servantes de Marie et dont le procès de béatification est parvenu à sa phase ultime. Voyez, pour redonner courage aux prêtres, pour qu'il puisse reprendre conscience aussi de son identité, que tous les fidèles aussi puissent reprendre conscience de l'identité du prêtre pour être encouragés eux-mêmes à s'engager pleinement dans la vie et dans la mission de l'Église, en particulier à travers ce qui les caractérise, qui est leur sécularité, le fait qu'ils sont insérés dans le monde, aux avant-postes donc de la mission, pour l'annonce de l'Évangile à tous.
En cette année sacerdotale et en rapport avec ce que vous venez de rappeler, Monseigneur, pourriez-vous nous dire également quelques mots de l'année de propédeutique qui vient d'ouvrir ses portes à Bayonne pour accueillir des jeunes gens qui se posent tout simplement la question de la vocation sacerdotale?
Oui, il m'avait semblé important, précisément après avoir rencontré de nombreux prêtres de notre diocèse et constaté quand même la souffrance du clergé, depuis la fermeture du séminaire, qui a toujours été une institution extrêmement prégnante dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, et cela seulement en 2005, il m'avait semblé important pour relancer l'espérance, et aussi dans le sens de cette année sacerdotale, d'ouvrir un lieu identifié, visible dans le diocèse, d'appel et de discernement au ministère presbytéral. Et c'est ainsi que l'appel a été manifestement entendu, puisque nous avons pu ouvrir à Bayonne, le 12 septembre dernier, cette année de propédeutique, c'est-à-dire cette année de préparation au séminaire, pour 7 jeunes qui désirent devenir prêtres et qui ont besoin d'affermir leur discernement et de fonder spirituellement leur appel. Et l'Église se donne aussi cette année pour discerner cet appel à la vie sacerdotale.
L'année sacerdotale, Monseigneur Hayer, qu'est-ce qui va se passer dans le diocèse concrètement dans les mois qui viennent?
Alors, on va proposer un certain nombre de démarches qui seront rendues effectives à partir de la Toussaint, sur lesquelles le Conseil épiscopal a planché, et actuellement un certain nombre de personnes mettent en place ces démarches. Nous avons d'abord identifié 5 lieux privilégiés pour une démarche personnelle ou communautaire, de prière en particulier, au cours de cette année sacerdotale. 5 lieux privilégiés qui sont d'une part les sanctuaires de Bétharram dans le Béarn et de Notre-Dame du Refuge à Anglette dans le Pays Basque, si on peut dire, autour des personnalités sacerdotales de Saint-Michel Garicoïtz et de Louis-Édouard Sestac, où les pères de Bétharram et les sœurs, les servantes de Marie proposeront donc des démarches dans ces lieux. Et puis aussi les 3 cathédrales, la cathédrale de Bayonne et les églises cathédrales de Lescar et Oloron, où une démarche sera également proposée. D'autre part, un certain nombre de rendez-vous seront signalés dans le programme de l'année, en particulier pour les prêtres, la rencontre annuelle des vœux du clergé, si je puis dire, au début de l'année prochaine, mais aussi un certain nombre de colloques, de récollections, comme une récollection qui est organisée au niveau de la province de Bordeaux, à Lourdes, les 7, 8 et 9 mars prochains, un colloque théologique à l'Institut catholique de Toulouse au mois de mai, la clôture solennelle de cette année sacerdotale à Rome pour un congrès international des prêtres autour du pape Benoît XVI, les 9, 10 et 11 juin prochains. Mais aussi, pour les fidèles, non seulement les démarches qui seront proposées dans ces lieux, mais encore une opération lancée sur Internet il y a maintenant quelques jours, dites merci aux prêtres, pour que les fidèles puissent témoigner, tout simplement pour tous et partager avec tous les témoignages qu'ils ont de figures de prêtres qu'ils ont rencontrées dans leur vie et comment ces prêtres ont eu une importance dans leur histoire humaine et chrétienne.
Pour vous, c'est quoi un bon prêtre ?
Un bon prêtre, c'est un prêtre qui est fidèle à sa vocation, hein, fidélité du Christ, fidélité du prêtre, qui est d'abord d'être un compagnon du Christ, un ami du Christ, puisque Jésus a appelé ses apôtres, et nous sommes prêtres à la manière des apôtres, pour être avec lui, donc qui vivent une certaine intimité avec le Christ, qui est fondateur d'ailleurs de leur célibat sacerdotal, pour être tout uni au Christ, et qui est l'homme pour les autres. Hein, on n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour un peuple, on est prêtre pour les hommes, au-delà même de la communauté ecclésiale qui est confiée à notre ministère. Et donc c'est l'homme qui est à la fois l'homme de Dieu, l'homme pour le Christ et l'homme pour les hommes.
Pour ces jeunes qui ont commencé leur année de propédeutique, on va les rencontrer, je crois, sur les routes du diocèse toute
voilà.
L'année.
Donc ils vont, sous la direction de leur responsable, l'abbé Jacques de Mesmet, qui est en même temps le responsable du service des vocations, ils vont s'engager dans une caravane des vocations en allant de paroisse en paroisse pour participer d'abord à la vie de la paroisse à travers la messe dominicale généralement, proposer aussi une veillée de prière pour les vocations, des rencontres avec les jeunes quand il y a des groupes constitués ou avec les servants d'hôtel, les servants de messe et de manière peut-être à visibiliser d'une certaine manière cet appel aux sacerdoces à travers leurs propres questionnements et leurs propres discernements.
Dans votre communiqué du bulletin diocésain en date du 7 septembre, dans ce communiqué intitulé « Rentrer sous le signe de l'année sacerdotale », vous dites que vous ferez certainement appel à des prêtres de l'extérieur pour venir aider le diocèse.
Alors, c'est une question à laquelle dont j'ai déjà parlé un peu en perspective. Mais ça ne pourra se faire évidemment qu'après une réflexion communautaire, hein, avec les prêtres en particulier et au conseil presbytéral très spécialement. Mais je pense certainement que dans les années qui viennent, vu la pénurie des vocations de ces dernières années, vu le vieillissement du clergé, l'essoufflement aussi à cause de la multiplication des activités pastorales qui pèsent sur les épaules de nos prêtres aujourd'hui, il faudra non seulement conscientiser, si je puis dire, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs années, les fidèles laïcs pour qu'ils participent à cette charge pastorale à la mesure de leur propre grâce et de leur propre vocation de fidèles du Christ laïc. Mais il faudra certainement faire appel aussi, non seulement relancer la pastorale des vocations, et certainement que j'espère le développement de cette propédeutique, et même peut-être d'un séminaire qui pourrait rouvrir ses portes dans le diocèse, dont est la spécificité du diocèse de Bayonne, Lescar-et-Oloron, mais peut-être aussi faire appel à des forces neuves et extérieures qui pourront venir collaborer, non pas se substituer bien sûr, mais collaborer à notre désir de nous engager dans un nouvel élan missionnaire.
Vous parlez peut-être de prêtres qui viendraient d'Afrique, comme on en voit dans certains diocèses.
Ça peut être des prêtres qui viennent d'Afrique, qui ont, c'est vrai, beaucoup de choses à nous apprendre et peuvent aussi renouveler notre propre zèle missionnaire, puisqu'ils viennent de jeunes églises en pleine expansion. Ça peut être des prêtres qui viennent d'autres régions du monde où les prêtres sont présents en nombre, précisément. Ça peut être des communautés nouvelles aussi qui ont surgi dans l'Église depuis le Concile et qui ont à disposition des forces plus neuves et peut-être adaptées aux temps actuels, en particulier dans le sens de ce nouvel élan missionnaire auquel nous réfléchissons tous dans les diocèses de France, en particulier depuis quelques années.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Mgr Haillé, il y a un an, le 15 octobre, nous apprenions votre nomination par le pape, donc à la tête de notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Olivier Drapé.
Oui, Monseigneur, à l'approche de ce premier anniversaire de votre nomination comme évêque du diocèse, y a-t-il des orientations ou des décisions que vous auriez prises, éventuellement des projets ou des initiatives dont vous aimeriez nous dire quelques mots?
Alors, comme vous le savez, c'est vrai que dans ces derniers mois, j'ai procédé à une modification, un renouvellement du conseil épiscopal, appelant, comme je l'avais dit en son temps, des visages plus nouveaux, dont certains font partie des prêtres les plus jeunes de notre diocèse, qui constituent un groupe minoritaire, mais qui est celui qui, s'il plaît à Dieu, a le plus d'avenir dans les années qui viennent. Je crois que pour l'instant, les orientations majeures de mon diocèse seront consignées dans une lettre pastorale, dont j'ai annoncé la publication pour le premier anniversaire de mon ordination, c'est-à-dire au tout début de l'année liturgique qui vient, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, où je partagerai un certain nombre de réflexions pour présider aux réflexions et aux prises de décision que nous aurons à prendre dans les mois qui viennent pour donner des perspectives ou un projet en tout cas diocésain pour les années qui viennent. Ces réflexions tourneront autour de trois points importants. D'abord, un nouvel élan missionnaire que je crois urgent dans notre diocèse comme dans de nombreux diocèses de France aujourd'hui. Un renouveau intérieur qui est d'ailleurs l'un des objectifs demandés par le Saint-Père pour cette année sacerdotale spéciale dans laquelle nous sommes engagés depuis le 19 juin dernier, et une spiritualité de communion, car c'est ensemble, dans la communion entre les prêtres et les laïcs, entre les services, les mouvements et les paroisses, entre les nouveaux et les anciens charismes, c'est-à-dire ces grâces qui sont données à des personnes, prêtres ou laïcs, à des communautés dans l'Église, nouvelle ou ancienne, pour l'édification de l'Église, voyez. Et je crois que tout cela balisera certainement les orientations que nous nous donnerons avec les organismes que le diocèse, les organismes ecclésiaux habituels du diocèse, conseil épiscopal, conseil presbytéral dont nous procédons actuellement à la recomposition, mais aussi ces autres organismes dont j'ai annoncé la constitution dans le diocèse, que ce soit l'Observatoire de la Mission, que ce soit l'Académie diocésaine pour la vie, que ce soit l'Observatoire sociopolitique, qui nous aideront en effet à nous donner des orientations d'avenir pour notre Église diocésaine.
Pouvez-vous également, Monseigneur, nous dire quelques mots de l'adoration eucharistique perpétuelle que vous avez souhaité instaurer, aussi bien d'ailleurs à Bayonne que maintenant à Pau?
Voilà, je crois que C'est une des choses qui me paraît très importante et certainement pas anecdotique et qui rejoint ce que je disais déjà en arrivant dans le diocèse, quand je disais, sans formule de style, que je n'avais pas moi-même de projet. Je vois bien que des orientations qui se dessinent aujourd'hui et qui seront à construire ensemble, encore une fois, viennent d'une première expérience, d'une première connaissance, d'une première écoute, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi en confrontation, si je puis dire, une écoute des personnes que j'ai rencontrées de manière multiple, que ce soit les prêtres, les consacrés, les laïcs en responsabilité, les laïcs de base, mais aussi en dehors de notre communauté ecclésiale, les responsables de société civile ou les élus locaux que j'ai pu rencontrer. Tout ça pour dire que ce projet, nous le recevons nécessairement de Dieu. Et je crois que ce qu'il faut, la première conviction qui est la mienne et que je voudrais partager, c'est que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Et il faut évidemment que nous nous recentrions sur le Christ, qui est la pierre de fondation de son Église, et c'est lui qui conduit son Église. Donc il faut nécessairement que nous nous mettions toujours davantage à l'écoute de sa parole. Et je me rappelle en effet toujours cette devise que le Seigneur m'a donnée d'une certaine manière pour mon ministère épiscopal, « Audi Israël, Shema Israël, écoute Israël ». Et en particulier, non seulement l'écoute de la parole de Dieu, qui doit avoir une place centrale dans la vie de nos communautés chrétiennes, mais aussi l'adoration eucharistique, parce que c'est là que Jésus, présent dans son Eucharistie, anime vraiment son Église, l'Eucharistie demeurant là le sommet et la source de la vie et de la mission de l'Église. Et c'est ainsi, en effet, que j'ai désiré l'ouverture d'une chapelle d'adoration perpétuelle à Bayonne, qui fonctionne depuis le 25 mars dernier, avec au moins 300 fidèles qui sont engagés à une heure hebdomadaire d'adoration, jour et nuit, sans compter ceux qui viennent aux heures du jour sans y être engagés, et puis une chapelle d'adoration qui va s'ouvrir le 15 octobre, cette semaine même, donc à Pau, pour que le deuxième poumon du diocèse soit aussi bien animé par cette présence eucharistique du Christ.
Monseigneur Raillé, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous vous retrouverons tous les mois pour ce type d'entretien où vous abordez à la fois la vie du diocèse, mais aussi les questions d'actualité qui peuvent survenir dans notre panorama diocésain. Pour terminer, Monseigneur Raillé, nous disions au début, c'est la semaine missionnaire mondiale. Quel est l'effort que vous proposeriez aux catholiques du diocèse pour être plus missionnaire?
Voilà, alors je crois que c'est la grande question qui me taraude et sur laquelle je m'exprimerai en effet dans la lettre pastorale qui sera publiée au début de l'année liturgique prochaine. Je crois d'abord que j'invite les catholiques de notre diocèse à répondre aux sollicitations des œuvres pontificales missionnaires pour aider les pays de mission, pour qu'ils aient les moyens de leur mission d'évangélisation qui est aussi une mission d'humanisation et qui correspond à ce développement humain intégral que nous avons à promouvoir sous toutes ses formes, en particulier dans les pays sous-développés, les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres où l'Église est encore en pleine expansion. Mais cela veut dire aussi que nous devions prendre conscience, tous autant que nous sommes, prêtres, consacrés et fidèles du Christ laïque, du mandat missionnaire du Christ et acquérir une nouvelle conscience missionnaire. Comment, là où nous sommes, où nous côtoyons de plus en plus d'hommes et de femmes et de jeunes qui, baptisés ou non, se sont éloignés, en tout cas, de l'Église et de l'Évangile, eh bien, comment proposons-nous la foi? Comment honorons-nous cette mission de première annonce ou de nouvelle première annonce de l'Évangile que nous avons, nous, rencontré en la personne de Jésus et qui transforme notre vie?
Merci beaucoup, Monseigneur Raillé. Ce sera le mot de la fin. Et donc, merci aussi à Olivier Drapé, votre délégué épiscopal à l'information et à la communication. Et rendez-vous au mois prochain. Merci.
Merci. Merci.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escute Israël.
C'était la rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Raillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Une rencontre que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio www.lapourdi.net.